France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Fou d'histoire pour donner la parole à celles, à ceux qui ne sont pas historiens, pas historiennes, mais qui se repaissent d'histoire et qui plongent dans le passé. Côté grand bain, de l'arrestation au vol de la Joconde, du temps des bohèmes, un siècle d'amour, des années de Montmartre au roman des artistes, d'Anne Frank et fou d'histoire, je reprends la très belle phrase qui apparaît sur le bandeau de son roman « L'arrestation ». On ne sait jamais ce que le passé nous réserve.
Pour voir Paris avec des lunettes surréalistes, il faut laisser l'imagination prendre possession de nos yeux et permettre à notre esprit de suivre le fil des associations spontanées. Et les noms des rues sont parfois empreints d'un humour involontaire que l'on peut considérer comme un pur produit de ce que les surréalistes ont nommé le hasard objectif. La rue des solitaires donne sur la place des fêtes. La rue du repos longe le cimetière du Père Lachaise. La loi mène à une impasse et les arts se terminent en cul de sac. À force de chercher le merveilleux caché derrière toute chose, celui que ce jeu aura séduit tentera peut-être de passer de l'autre côté du miroir et d'y attraper au vol des aspects inattendus et insolites.
Bonjour Dan Franck.
Bonjour.
Vous êtes quel type de promeneur, vous ?
Je suis un promeneur littéraire, je me balade dans les quartiers où il y a eu beaucoup d'art à une époque, Montmartre, Montparnasse, j'ai beaucoup écrit d'ailleurs sur ces deux quartiers. Voilà, je me balade un peu dans Paris.
Avec cette archive, très belle archive d'ailleurs, nous étions dans une balade surréaliste dans les rues de Paris en octobre 1952. Le 31 octobre, vous n'aviez que 14 jours. Vous ne marchiez pas encore.
J'étais en retard.
Oh non, 14 jours, ça va, c'est bon. Dan Franck, c'est quoi cette balade dans Paris, ce Paris artistique pour vous ? Parce que j'aime beaucoup, moi, cette idée de se promener avec un filtre particulier, ce filtre qui vous fait voir les lieux des arts. Ce sont quels artistes que vous recherchez ?
Les peintres, les écrivains, les sculpteurs. J'ai beaucoup travaillé sur le bateau Lavoir, Montmartre d'abord, et puis ensuite Montparnasse, qui a succédé à Montmartre comme refuge des artistes. Et puis après, ça a été Saint-Germain-des-Prés au moment de la Seconde Guerre. Voilà, je m'en suis tenu beaucoup à ces quartiers-là, qui sont des quartiers très denses, qui ont beaucoup changé. Le Dôme et la Rotonde existent toujours, mais on ne reçoit plus des rapins et des scribouillards. Maintenant, c'est un autre public. Mais quand même, par exemple, quand j'écrivais ce livre qui s'appelle Bohème, qui raconte donc en effet le bateau Lavoir de Montmartre à Montparnasse, la Rotonde, enfin la Closerie des Lilas, ces cafés, je me baladais avec... j'étais très surpris parce que j'avais des adresses des artistes peintres, notamment Modigliani, Soutine, etc. Et souvent, c'était le même immeuble et je ne comprenais pas. Il y avait une façade et en vérité, on m'avait donné une clé, un pass, en fait. Et derrière les immeubles bourgeois, il y avait des ateliers énormes. D'ailleurs, il y en a toujours énormément d'ateliers où vivaient ces rapins qui étaient à l'époque très pauvres.
Oui, parce que c'est ça, c'est cette bohème. D'ailleurs, vous sauriez dire comment vous en êtes arrivé à vous intéresser à ce monde-là particulier de la bohème. Il y a tant et tant de champs à explorer dans ce monde des arts.
Parce que, d'abord, j'aime les artistes. C'est souvent les personnages principaux de mes livres. Et puis, je me suis intéressé à Kiki de Montparnasse. Je devais faire un film avec un de mes amis. J'habitais Montparnasse. Et puis, j'ai commencé à fouiller. Et c'est devenu une fresque, en fait. C'est devenu trois livres. Et c'est à partir de là, de ce premier tome de Bohème, que je me suis dit que c'était finalement formidable de raconter la vie de la société, la vie de la politique, la vie à travers la vie et l'œuvre des artistes. Voilà, ça me permettait d'embrasser une époque à travers des personnages qui constituent notre art.
Oui, c'est ça, hein, ce sont des gens qui se connaissent. C'est très dur d'en étudier qu'un seul parce que tous les autres se croisent sans cesse avec l'existence d'un ou d'une artiste.
Ben, c'est-à-dire que mes livres, je parle de ces trois tomes qui ont été réédités dans le temps des bohèmes ou de le roman des artistes, l'époque sur laquelle je travaille en ce moment, c'est-à-dire le 19e. Au fond, ce qui m'intéresse en effet, c'est comment ils vivent entre eux. Par exemple, au bateau Lavoir, il y avait une vraie fraternité, entre une jalousie aussi quand même, mais une fraternité, par exemple, entre Apollinaire, Max Jacob, Picasso. Et au 19e, c'est pas du tout la même chose. Il y a plutôt une jalousie des uns, des écrivains, pour des raisons en fait structurelles et des raisons qui viennent avec l'époque, c'est-à-dire la naissance de la presse moderne, la naissance du feuilleton moderne. Et donc, ça me permet de raconter la société, en fait. L'évolution de la société.
En plus, Dan Franck, dans votre démarche, il y a les aventuriers de l'art moderne, et vous l'avez bien dit, c'est une trilogie, mais publiée dans un seul volume, c'est Le Temps des Bohèmes, avec ce choix pour une trilogie, trois tomes avec la chronologie. Et c'est, j'aime beaucoup, hein, parce que vous savez, vous êtes dans une émission d'histoire, les dates, la chronologie, c'est notre schéma de
bien
pensée.
Bien sûr.
Non, mais 1900, 1930, 1931, 1939, 1940, mais 1945.
En fait, j'avais divisé les livres en trois époques, en fait. La naissance du cubisme, l'arrivée des immigrés à Paris, qui était la capitale du monde, l'école de Paris, etc. Ça, c'est le premier tome. Le deuxième tome, c'est Libertad, c'est la guerre d'Espagne. Et toujours, à travers les artistes, notamment Gide, qui découvre l'URSS, et Malraux, qui part en Espagne. Et le dernier tome, qui s'appelle Minuit, c'est la résistance, avec Camus, Sartre, et Beauvoir. Et mon travail d'aujourd'hui, c'est-à-dire le roman des artistes qui aura quatre tomes, s'articule autour des trois révolutions, 1830, 1848, la Commune, et je terminerai sur l'impressionnisme. J'arriverai là où je suis parti, c'est-à-dire au bateau Lavoir.
Oui, c'est une histoire régressive. Hein.
Oui,
vous avez commencé au XXe siècle et vous poursuivez au XIXe siècle.
Mais j'ai toujours voulu... En fait... L'arrivée à Montparnasse était un peu du hasard et j'y suis resté. Mais j'ai toujours voulu faire le romantisme. J'ai toujours voulu faire cette période parce que mes recherches sont parties d'une constatation assez simple. C'est qu'au moment où Berlioz crée l'orchestre symphonique moderne, c'est-à-dire avec la division des pupitres, la division du travail commence à régler le monde de l'industrie. Et partant de là, c'est là où est venue cette idée de « je vais raconter les artistes, je vais raconter l'évolution des arts et l'évolution des sociétés en même temps ». C'est à partir de Berlioz et la division du travail. Et donc, après Bohème, j'ai continué parce que mon ami éditeur m'avait dit « continue ». Mais en fait, j'ai toujours voulu revenir à la base, la période romantique. Le romantisme, c'est un terme étrange parce que... je peux en parler longuement, mais on a l'impression que c'est que Lamartine et Chateaubriand, donc des poésies comme ça, très nature, alors qu'en vérité, c'est un monde de rupture formidable. C'est aussi Hernani, c'est aussi la naissance de la littérature moderne, la naissance de la peinture moderne. Voilà, et j'ai voulu raconter tout ça.
« 4 mai 1867. »
Après une interruption de 15 ans, Hernani va être repris au Théâtre Français. Et il sera joué tel qu'on le jouait en 1830. À l'époque, le public sifflait tous les soirs tous les vers. C'était un rare vacarme. Le parterre huait, les loges éclataient de rire. Les comédiens étaient décontenancés et hostiles. La presse avait été à peu près unanime et continuait tous les matins de railler la pièce. Absurde, comme Hernani. Monstrueux, comme Hernani. Nié, faux, ampoulé, prétentieux, extravagant et amphigourique, comme Hernani.
Hernani, ici c'est une création au Festival d'Avignon en 2002 avec... cette évocation mais de combat tellement vif et rude autour du romantisme, parce que, Dan Franck, vous le dites bien, il y a Chateaubriand, il y a Lamartine, qui est là devant son lac, mais qui attend que le temps suspende son envol. Mais il n'y a pas que ça dans le romantisme, il y a des combats.
Ben, il y a surtout des combats. La première période des romantiques, c'est ça. Mais la deuxième période, c'est en effet, c'est Victor Hugo et qui crée le théâtre moderne avec Alexandre Dumas. Et Alexandre Dumas est probablement antérieur avec Henri III et sa cour, antérieur à Victor Hugo. En tout cas, c'est la première fois qu'on crie romantique à propos d'une pièce de théâtre. Mais c'est vrai que Victor Hugo, lui, s'est organisé les choses, il a organisé la claque, et en fait, la nouveauté du théâtre de cette époque, du théâtre moderne, c'est que on représente les rois comme des personnages, les vers, on en met ou on n'en met pas, le vers est libre, on casse la règle des trois temps, des trois unités, d'une unité des lieux, enfin bref, c'est quelque chose de très très nouveau. Et c'est vrai que Hernani, c'est le symbole de ça, d'abord parce que c'est en même temps que la Révolution de 1830, et puis parce que c'est aussi la naissance de Victor Hugo comme maître d'école, comme chef de ce nouveau mouvement. Et c'est un mouvement très particulier parce que, par exemple, je pense à Delacroix. Delacroix qui a fait ce tableau merveilleux que tout le monde connaît, qui s'appelle « La liberté guidant le peuple ». Victor Hugo voulait absolument associer Delacroix à l'école romantique. Et Delacroix n'en voulait pas. Il disait, moi, quand je suis amoureux d'une femme, je vais pas l'emmener voir la lune et les étoiles, je l'emmène chez moi et je ferme ma porte, quoi. Et donc, il y a cette dimension-là, cette dimension combat, parce que même Delacroix représente, après Géricault, il montre des gens du peuple. C'est plus Napoléon, peint par David, c'est plus des victoires militaires, c'est plus des grands hommes, c'est la population. Et le romantisme, c'est exactement ça, de la même manière qu'en littérature, avec la naissance du feuilleton moderne, avec des écrivains comme Balzac, comme Dumas, comme Eugène Sue ou comme Georges Sand, on parle d'autre chose et autrement.
Oui, avec ici cette attention d'Anne Frank que vous portez à cet aspect social. Vous traversez le période et les temps par les artistes, très bien, mais vous l'avez déjà dit. Il y a cette pensée politique qui est là aussi en toile de fond. Karl Marx écrit à ce moment-là. Et puis, il y a ce souci accordé au peuple, avec la difficulté toujours de définir ce qu'est le peuple. Mais enfin, il est là. Et ça, ça fait partie de cette histoire. Et c'est intéressant de se dire que vous racontez une histoire de France, on peut le dire comme ça, mais à travers le monde des arts.
Mais par exemple, quand vous prenez l'évolution de deux personnages majeurs de cette époque, qui sont Alexandre Dumas et Victor Hugo. Alexandre Dumas, en 1830, il prend les armes, il va sur les barricades. Et puis, il est très critique parce qu'il considère que, en fait, la bourgeoisie a récupéré cette révolution qui est une révolution, au fond, petite bourgeoise, qui est organisée plutôt par des journalistes qui mènent le combat. Mais quand même, le peuple, à un moment donné, arrive là, sur les barricades, et le peuple est massacré. Et puis, naît une monarchie constitutionnelle avec Louis-Philippe qui remplace Charles X. Et puis, Dumas est très, très critique. Et en 48, donc 18 ans plus tard, il est un peu vieilli quand même. Donc il est un peu moins, virulent. Il y va quand même. Mais bon, puis pas à la fin de sa vie, mais avant, il devient un marchand d'armes pour Garibaldi. Donc en fait, et à l'inverse, Victor Hugo, c'est tout à fait le schéma inverse, puisque Victor Hugo, il est pair de France, donc sénateur. Il est à droite. Il vient de la droite, avec une constante absolue et remarquable, c'est qu'il a toujours défendu l'abolition de la peine de mort, et il a toujours parlé des gueux et des misérables, mais il est à droite. C'est-à-dire qu'en 1830, alors il ne bouge pas, parce qu'en 1830, son éditeur le menace, parce qu'il devait rendre, il est en retard, il devait rendre Notre-Dame de Paris. Et il est en retard, donc en fait, il s'enferme, il se met en pyjama, il reste en pyjama, il voit rien, il écrit. Mais en 48, en revanche, il y va, quoi. Et peu à peu, Victor Hugo va passer de la droite opportuniste, parce qu'on a toujours à l'époque considéré qu'il était opportuniste, à un soutien à Louis-Napoléon Bonaparte jusqu'au coup d'État du 2 décembre. Et là, il est exilé. Et là, il devient socialiste. Il le revendique d'ailleurs. Il devient un homme de gauche. Et c'est intéressant parce que tout ça, vous savez, c'est le mot de Shakespeare, quoi. Le passé est un prélude. Et en vérité, quand vous lisez cette période, 30-48, vous comprenez ce qui se passe aujourd'hui.
Ah oui, c'est vrai, hein, ce 19e siècle est tellement en écho aux préoccupations d'aujourd'hui. Ouais, vous le ressentez, d'Anne Frank ?
Ah ben oui, parce que par exemple, Louis-Napoléon Bonaparte qui arrive avec un programme de gauche, l'extinction du paupérisme, c'était son livre programme, il est soutenu par Proudhon, par Victor Hugo, par la plupart des artistes, et puis arrivé au pouvoir, il fait une politique de droite, ça vous rappelle quelque chose ?
Ah bon, moi je réponds pas, hein. Je vous fais un clin d'œil. Donc ici, on a tous ces personnages que l'on croise, et c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est cette galerie de portraits. Et alors, quel personnage ! Parce que, il y en a beaucoup, mais c'est comme une évidence, c'est cette balade dans Paris qu'on évoquait en début d'émission, replacée au 19e siècle, où l'on croise tout le monde. Et ça fait plaisir aussi, parce qu'on les connaît sans les connaître.
Ben oui, parce qu'en général, ils sont dans les livres d'histoire, la gare des Michards. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de leur donner la vie. C'est la phrase de Baudelaire que je mets en exergue du livre, c'est-à-dire que il faut connaître la vie des personnages pour comprendre leurs œuvres. Souvent, d'ailleurs, Baudelaire est un des personnages majeurs de cette fresque, quoi. Mais c'est oui, j'avais envie comme ça de les traiter comme des personnages. Avant d'être, je suis pas du tout historien, j'aime l'histoire absolument, mais je suis romancier. Donc, j'ai construit ces livres-là exactement comme on construit des séries aujourd'hui. J'ai d'ailleurs écrit beaucoup de séries. C'est-à-dire qu'on passe de l'un à l'autre, mais il y a un fil personnel, un fil dramatique, un fil... Et ces personnages, moi, je veux les aimer. Et j'ai toujours pensé que si je les aimais pas en écrivant, on les aimerait pas en les lisant, quoi. Et c'est les personnages de mon univers.
Ce que vous dites là est très intéressant dans la démarche de la transmission de l'histoire, mais l'histoire au sens des événements du passé. Il y a le livre de l'historienne, de l'historien, et c'est vrai que le titre pourrait convenir, hein. On voit des livres d'histoire qui s'intituleraient « Le roman des artistes », on ne mettrait pas roman, je pense, en histoire,
non.
Mais « Le temps des artistes », et puis « Les romantiques », et puis on ferait un livre d'histoire, on a évoqué le fait que vous preniez des bandes chronologiques. Ici, c'est quoi la démarche du romancier ? Donc, vous l'avez dit, c'est cette liberté supplémentaire que vous avez pour créer ces liens. Mais il n'y a pas d'invention ici.
Il n'y a aucune invention. Il n'y a aucune invention. Et j'y tiens, ça fait partie beaucoup du travail d'ailleurs. Il n'y a pas d'invention, mais je lis beaucoup de choses, beaucoup de textes de l'époque. Je lis beaucoup de journaux intimes. Je lis des croisements. On parle des personnages autrement. Par exemple, je vais vous donner un exemple de mon travail. Sur le tome 2, là, la suite, qui s'appellera Révolution et qui sort en octobre, je parle de ça parce que je suis dedans, je le finis. Je suis à Jersey avec Victor Hugo qui vient d'être exilé. Et puis en même temps, il y a Flaubert qui travaille sur Madame Bovary. Et je me dis comment je passe de l'un à l'autre. Ça m'intéresse pas de raconter Hugo d'un côté, puis paf, un autre chapitre. Non, je cherche des croisements. Et j'en trouve un qui est absolument génial, que moi je trouve génial, et alors qui excite le romancier que je suis. C'est que quand Victor Hugo était en exil, il pouvait pas écrire en France. Parce que tous ses correspondants étaient fichés, surveillés par la police. Il pouvait pas envoyer ses textes non plus. Ça passait par la Belgique. C'était très compliqué. Donc il avait tout un système clandestin. Il envoyait une première enveloppe à un proscrit qui était à Londres, lequel changeait l'enveloppe, mettait une autre adresse et l'envoyait à un deuxième facteur, qui lui-même l'envoyait à un troisième facteur qui déposait la lettre. Et en fait, à un moment donné, je constate que Victor Hugo écrit à Flaubert. « Cher monsieur », je me dis « tiens, c'est quand même étrange ». Du coup, je vais voir dans la correspondance de Flaubert et je découvre le cheminement des lettres de Victor Hugo qui va, donc la lettre part de Jersey, s'en va à Londres. De Londres, le proscrit l'envoie à Croisset, où est Gustave Flaubert. Flaubert l'envoie à Louise Collet, qui est sa maîtresse, qui connaissait Victor Hugo. Et Louise Collet, à Paris, distribue la lettre. Et donc, ces deux génies de la littérature commencent à s'entretenir à travers les lettres. « Cher monsieur, je vous admire. Flaubert a une admiration folle pour Victor Hugo. Victor Hugo ne connaît pas Flaubert car il n'a encore rien publié. » Et alors, ils s'écrivent et ils deviennent... C'est très intéressant parce que, par exemple, Flaubert a une admiration donc sans bornes pour Victor Hugo, mais il a un mépris total pour ses engagements politiques. Donc, il écrit à Louise Colonne. J'ai encore reçu une lettre du vieux crocodile. Dont, quand il écrit au vieux crocodile, il dit « Cher Victor Hugo, je vous admire depuis l'enfance. » Et bref, et du coup, ça me permet de raconter l'intimité de ces deux personnages, l'intimité de Flaubert avec sa maîtresse Louise Collet et aussi la manière dont Flaubert écrit Madame Bovary, qui est un exercice absolument extraordinaire. Et tout le livre est construit comme ça.
Et c'est en fait. Ça, ouais, ça fonctionne bien, vous le disiez bien, Dan Franck, il y a cette écriture aussi liée à la série. Enfin, la narration, c'est quelque chose d'exceptionnel, parce que c'est le plaisir aussi, c'est pour ça qu'il y a ces émissions fous, folles d'histoire sur France Culture. C'est cette main tendue pour ensuite aller lire des ouvrages universitaires consacrés à Flaubert, à Dumas, à Hugo et à tous les autres. Mais c'est ça aussi, ce plaisir qu'on entend maintenant, c'est ce plaisir qu'on retrouve dans vos ouvrages.
Ben, ça veut dire, si vous me dites ça, ça veut dire que j'ai gagné mon pari, quoi. Mais parce que, moi, je vous raconte une histoire, mais j'ai écrit beaucoup de séries. Et les séries, c'est fait exactement comme, vous savez, vous regardez un épisode le lundi, il faut absolument que on y aille le mardi. Et pour ça, on a créé ce qu'on appelle des cliffhangers. Et moi, quand j'ai écrit des séries, j'ai tout appris dans le roman populaire français, c'est-à-dire chez Dumas notamment, ou chez Eugène Sue. Et parce que c'était le même principe. Quand on leur demande d'écrire des feuilletons, c'est-à-dire, c'est un type qui s'appelle Émile Le Girardin qui crée la presse moderne en disant la presse ne se vendait pas du tout à l'époque, enfin c'était très cher, et lui a eu l'idée d'introduire et la réclame, c'est-à-dire la publicité, mais aussi de demander à des écrivains d'écrire des feuilletons quotidiens. Et ils s'y sont tous mis, Balzac le premier, Dumas, enfin tout le monde les a écrits, et le principe, c'était le principe des séries. C'est-à-dire que Girardin donnait comme consigne, quand on achète le journal le lundi, il faut qu'on l'achète le mardi. Et ce que nous nommons les cliffhangers aujourd'hui, Sainte-Beuve appelait ça les traquenards d'intérêt. Et moi, j'écris comme ça. C'est-à-dire, j'écris de cette manière-là. Et quand j'écrivais même les aventures de Borot, reporter, photographe, dont on parlera peut-être, c'était le même principe d'écriture. C'est-à-dire, quand on s'emmerde en écrivant, on s'emmerde en lisant. Et moi, je veux qu'on prenne son pied et son plaisir. Donc moi, j'ai beaucoup de plaisir à écrire et j'espère qu'on aura du plaisir à lire ces livres-là.
Ah ben, on l'a, ce plaisir, et puis on apprend qu'Alexandre Dumas aurait été un excellent scénariste de série.
Ah oui.
Comment Dumas conçut-il l'idée de Monte-Cristo? Il nous raconte dans ses causeries qu'en 1842, étant à Florence, il fut chargé par Jérôme Bonaparte, ex-roi de Westphalie, de piloter son fils, le prince Napoléon, jusqu'à l'île d'Elbe, qui était naturellement un des lieux sacrés de la famille impériale. Ils abordèrent à l'île d'Elbe, ils la parcoururent en tous sens, puis allèrent faire une partie de chasse sur l'îlot voisin de Pianosa, abondant en lapins et en perdrix. Là, leur guide, jetant les yeux sur un magnifique rocher en pain de sucre qui s'élevait au milieu de la mer, leur dit « Oh, Excellence, c'est si vous alliez à ce rocher que vous feriez une belle chasse. » Et comment, dit Dumas, s'appelle cette île bienheureuse? Elle s'appelle l'île de Monte-Cristo. Le nom enchanta Dumas. « Monseigneur, dit-il au jeune prince, en mémoire de ce voyage, je donnerai le titre de Monte-Cristo à quelques romans que j'écrirai plus tard. » Il n'avait pas de sujet, mais il avait le titre.
Ah ben voilà, nous étions avec André Mauroy en 1957. André Mauroy qui a fait toutes les biographies romancées, bien sûr, de tous ces grands auteurs. C'est ici un personnage formidable, hein. André Mauroy à lire, c'est toujours un plaisir.
Bien sûr.
Dan Franck?
Non, alors, c'est surtout Dumas qui est un personnage merveilleux, parce que Dumas racontait mille histoires autour de la naissance du comte de Monte-Cristo. En fait, il y a plusieurs sources sur Monte-Cristo. Il y a d'abord l'idée fondamentale de la vengeance. Et la vengeance vient du fait que Alexandre Dumas veut venger son père ou la mémoire de son père. Son père était fils des... Enfin, la grand-mère d'Alexandre Dumas était une esclave qui s'appelait Marie-Cécette Dumas, que son père a vendue. Enfin, c'est une histoire que je raconte d'ailleurs dans le livre, et on est en train de faire un film avec des amis. Et donc, Dumas, le père d'Alexandre Dumas, est devenu un immense général, un des premiers généraux de l'armée française, en concurrence avec Napoléon Bonaparte, et qui a été maltraité terriblement par Bonaparte. Il a été fait prisonnier par les Italiens. Et il est revenu après quelques années de détention. Il était très mal en point. Il est mort 5 ans après la naissance de son fils. Et dans Monte-Cristo, c'est vrai qu'Alexandre Dumas veut venger la mémoire de son père. Mais il y a aussi autre chose, c'est que Monte-Cristo, c'est Dumas lui-même a raconté l'histoire de l'île. Mais en fait, son grand-père, donc son grand-père qui était un petit noble qui habitait Saint-Domingue, son grand-père avait un frère qui avait un domaine qui s'appelait le domaine de Monte-Cristo. Et je pense que le vrai nom de Monte-Cristo vient de ça. Mais Dumas est un personnage merveilleux parce que en fait il raconte, il baratine, il est extraordinaire. Il raconte, en fait c'est un homme qui vit dans l'histoire, qui se raconte des tas d'histoires, et c'est toujours merveilleux. Lire les mémoires de Dumas, c'est extraordinaire.
Et puis, avec Dumas, on a un cas d'école sur le roman historique, parce que toute cette réflexion ici sur la manière de transmettre le passé, Alexandre Dumas, c'est un succès phénoménal de plaisir de lecture, hein. Mais c'est une histoire particulière, c'est-à-dire qu'il y a l'invention à l'intérieur de la toile de fond historique. Vous, d'Anne Frank, vous n'êtes pas dans cette démarche-là.
Non, parce que moi, j'invente pas. Et quand j'écris ces livres-là, j'essaie de lui donner une forme romanesque qui donne du plaisir de lecture, mais je n'invente pas. Dumas a un imaginaire formidable, merveilleux. Et lui, donc, il part d'une structure historique qui est réelle, qu'il trouve avec son collaborateur, parce qu'il en a eu plusieurs, hein. Ça, c'est aussi une grande injustice, c'est que son premier collaborateur, qui s'appelle Maquet, n'est pas reconnu. C'était une industrie, Dumas. Dumas écrivait 15 feuilletons en même temps pour 3 journaux, plus des livres, plus des recettes de cuisine. C'était un graphomane absolument extraordinaire, mais avec une générosité de plume, d'imaginaire, de vie. Enfin, c'est un personnage formidable. C'est un de ceux que je préfère, en fait.
Ah bah très bien. En plus, on est ravis de le retrouver dans le roman des artistes. Donc, c'est 4 volumes qui commencent par romantisme, au pluriel, et c'est important de le dire, c'est publié chez Grasset, mais on a ici cette toile de fond qui est la bohème. La bohème, il y a plusieurs bohèmes. Il y a celle du 19e siècle, et puis celle du début du 20e siècle, qui sont en lien. Ce ne sont plus les mêmes gens, c'est pas la même génération.
C'est pas la même époque. C'est pas la même époque. Il y a la bohème, en effet, la bohème du 19e, qui est très pauvre, très des gens qui croient pas forcément en eux. Mais la bohème du 20e, du début du 20e, elle est beaucoup plus. Elle est plus reconnue comme telle. C'est-à-dire que la bohème, on dit toujours c'est beau après, c'est vrai. Mais la différence entre les deux époques, c'est que la bohème au bateau lavoir, la bohème du bateau lavoir, c'est que tous savent que ce sont des génies. Et tous savent qu'un jour, ils deviendront de grands artistes. Picasso n'a jamais douté une seule seconde de lui-même. Sauf quand même, quand il a vu la photographie qui s'est développée, là, à un moment donné, il a failli dire, enfin, il était bouleversé dans son atelier du bateau lavoir en disant, la peinture est morte. Mais autrement, il a toujours été conscient de son génie, en fait. Et c'est vrai d'Apollinaire, et c'est vrai d'un peu tous, quoi. Voilà. Donc c'était une bohème. En fait, elle était assez joyeuse parce qu'elle était pauvre, hein. C'est des gens, pour manger, ils allaient piquer des bouteilles de lait sur les rez-de-chaussée des immeubles bourgeois, quoi. Mais il y avait la création était quelque chose d'absolument inhérent à cette vie-là. Ils partageaient beaucoup. Il y avait des jalousies. Picasso était jaloux de Juan Gris, etc., qui habitait lui aussi au bateau lavoir. Mais il y avait quand même un foisonnement, voilà, formidable à cette époque.
Mais c'est vrai que la bohème du 19e siècle, de l'artiste dans sa soupente, qui crève de froid, il y a aussi la posture
de la
bohème.
Oui, alors moi, ça, par exemple, c'est une bohème. C'est cette image mythique de l'artiste que moi, alors qui ne correspond absolument pas à ma vision à moi et que je ne développe jamais, je ne développe pas cette vision nulle part, de l'artiste qui écrit dans le froid. En dehors de toute forme de société, qui est concentré sur son œuvre et unique. Ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand les artistes s'engagent, en fait. Quand les artistes sont dans leur monde, et ça, dans leur monde irréel, c'est-à-dire dans leur création pure, mais aussi dans la société. Dans la société. Au 19e, ce qui est formidable, c'est que c'est le rapport entre la presse et la littérature moderne, le rapport entre les salons et la peinture, le rapport même et la sculpture, etc. Tout ça, c'est quelque chose que je trouve... C'est une bagarre pour les artistes. Courbet, par exemple, quand il veut imposer le réalisme, c'est une bagarre. Et ces bagarres-là m'intéressent parce que ces bagarres-là montrent une évolution sociale et politique.
Et je serais malheureux si on ne citait pas Balzac.
Bah ouais, Balzac, c'est un génie, Balzac. Alors, Balzac, c'est un personnage extraordinaire. Il est... D'abord, il écrit merveilleusement bien. Balzac est jaloux de Dumas parce que Balzac commence le roman feuilleton, puis finalement, il se fait dépasser par Dumas qui permet aux journaux de vendre plus. Donc, Balzac est jaloux. Puis après, il y a Eugène Sue. Alors, il est jaloux des deux. Mais c'est un personnage merveilleux parce que Il vient de la province. Il a toujours eu un rapport à l'argent et aux amours extraordinairement complexe. Quand il a 20 ans, il envoie une lettre à sa sœur en lui disant « Trouve-moi une héritière riche ». Et puis finalement, il en trouve une lui-même. Une lettre d'une femme qui est une Ukrainienne et qui s'appelle Madame Anska et qui lui écrit d'Ukraine en disant « J'ai lu vos livres ». Balzac, les femmes adoraient Balzac parce qu'il dans ses livres, on le voit bien, il parle merveilleusement bien des femmes. Et donc commence entre Balzac et cette femme une correspondance qui d'ailleurs débute par des petites annonces. Ils se parlent par petites annonces interposées. Puis à partir du moment où Balzac se rend compte que cette femme est riche, il dit, mais c'est peut-être ça, quoi. Peut-être c'est la femme de ma vie. Or, elle est mariée, donc c'est quand même très embêtant. Mais ça fait rien, il insiste quand même, et il finit par la rencontrer en Suisse, Madame Anska. Elle vient avec son mari et a une fille. Et puis, bon, ça fait rien, ils deviennent amants quand même. Et ils s'écrivent, la correspondance de Balzac avec Madame Anska est merveilleuse. Ils s'écrivent pendant des années, ils se voient assez peu. Et quand le mari meurt, Balzac dit, maintenant, il faut que je l'épouse, quoi. Donc, il lui fait la cour dans ses lettres. Et puis, parfois, elle le fait suivre à Paris. Elle se rend compte qu'il est très dépensier, qu'il a d'autres femmes, qu'il sort, que, etc. Et lui, qui passe son temps à écrire, quand même, tous ces artistes passent leur temps à peindre ou à écrire, lui dit à un moment donné, mais vous rendez compte, moi, je vous écris tous les jours des lettres de 10 pages. Si à la place, je faisais un livre, vous écrire me coûte tant d'argent. Et il chiffre tout ça. Et bref, le mari meurt, il veut l'épouser, elle veut pas, puis finalement, elle accepte. Et il va en Ukraine, il obtient l'autorisation du tsar, il se marie avec elle. Il revient en France, il a acheté une maison avec son argent à elle pour vivre avec elle. Et il meurt. Donc en fait, il a rencontré cette femme 5 fois ou 6 fois en 15 ans, il l'épouse, il revient et il meurt. Mais Balzac, c'est un peu, il est un personnage à l'image de cette histoire. C'est-à-dire que quand il arrive dans les salons, Balzac, on rigole, quoi. Parce que il est pas propre, au début en tout cas, quand il arrive, il est pas propre. Il a les dents un peu noires, il mange avec ses doigts, il a une canne avec plein de bijoux dessus, ça fait rire tout le monde. Mais quand il parle, il fascine, quoi. C'est un personnage fascinant. Et quand il écrit, il est merveilleux. Et en fait, c'est exactement comme Flaubert ou comme d'autres. C'est l'écriture, pour lui, c'est de l'absolue nécessité.
Romantisme, le roman des artistes d'Anne Frank, c'est ce 19e siècle avec tous ces noms que nous évoquons, le temps des bohèmes, c'est ce volume qui nous fait voyager dans la première moitié du 20e siècle. On l'a dit, la bohème du 19e siècle n'est pas celle du 20e siècle.
C'est la vie de bohème, la vie sans façon, la vie de garçon,
la vie de patapatachon.
C'est la vie que l'on aime quand on a 20 ans,
mais que nous menons plus longtemps. Nous n'avons pas de galette, mais qu'est-ce que ça fout? On fait des dettes partout, partout, et l'on chante quand même la nuit de le jour. Vive la bohème et l'amour.
Cette mansarde divine où l'on a 2 ateliers
nous sert aussi de cuisine et de chambre à coucher.
Nous n'y faisons le ménage qu'une fois tous les 6 mois,
le jour où l'on déménage à la cloche de bois.
Chaque fois qu'une conquête vient m'accompagner,
toute la nuit je m'embête seul dans l'escalier.
Mais tu deviendras, j'espère, plus connu que Picasso
et beaucoup plus populaire que Victor Hugo.
Saint-Saint, c'est la vie de poème, la vie sans façon, la vie de garçon, la vie de patapatachon. C'est la vie que l'on aime quand on a 20 ans, mais que nous menons plus longtemps. Nous n'avons pas de galette, mais qu'est-ce que ça fout? On fait des lettres partout, partout, et l'on chante quand même la nuit et le jour. Vive la bohème et l'amour. Oh, 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 oh.
« c'est la vie de Bohème, c'est Bourvil, c'est Georges Guettari dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Anna Holbeck avec à la technique Alex Dang. Et aujourd'hui, nous sommes avec Dan Franck, authentique fou d'histoire, fou des arts également. C'est un véritable plaisir de traverser ces périodes à travers le monde des arts. Vous-même, Dan Franck, dans votre parcours de vie, l'histoire occupe quelle place? Je pose la question aux invités du cours de l'histoire pour savoir s'ils étaient enfants attentionnés au cours d'histoire. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a intéressé dès le début, l'histoire?
Non. À vrai dire, non. Mon goût de l'histoire vient quelque part de mai 68, quand même, dont je pense que c'est un moment historique tout à fait fondamental, tout à fait important. Et à partir de là, moi, je me suis intéressé, en fait, aux révolutions, révolutions russes, mais surtout la guerre d'Espagne. Mon premier livre, qui a reçu d'ailleurs le prix du premier roman, raconte l'histoire d'un ancien brigadiste qui était en Espagne en 1936. Et c'est à partir de là que j'ai développé, notamment avec mon ami Jean Vautrin, cette série littéraire qui s'appelle Les Aventures de Borot, reporter photographe, où nous avons raconté la naissance du nazisme en Allemagne, la naissance du Front populaire, la guerre d'Espagne, la résistance, la naissance d'Israël et la construction du mur de Berlin. C'est en fait l'idée, c'était, qui correspondait autant à la nature de Jean qui n'est plus la mienne, c'est-à-dire on voulait avoir une vision de gauche, puisque nous sommes des hommes de gauche, revendiqués comme tels, et on voulait avoir une lecture de l'histoire qui soit une lecture de gauche. Donc en fait, en Espagne, on est du côté des républicains et des brigadistes, pendant la résistance, on est du côté des résistants, et etc., etc.
Avec ici toujours cette idée du temps qui a passé. Être du côté du résistant, il y a le temps, il y a ce regard porté. Mais c'est très intéressant, le temps que nous vivons aujourd'hui, pour se dire que ce n'est pas une évidence. Et vrai qu'on pourrait dire, c'est facile, longtemps après, de dire « moi, j'aurais été résistant ». Non, ça ne l'est pas.
Mais ça ne l'est pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas ce que nous disons. Ce sont des romans qui racontent la complexité d'une époque, la complexité des engagements, etc. etc. Mais ce qui, moi, m'a toujours fasciné dans la guerre d'Espagne, c'est à la fois, j'ai le sentiment que quand on a compris la guerre d'Espagne, on a compris l'histoire du siècle, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le fascisme, qu'est-ce que c'est que le stalinisme, et quand on plonge dans la guerre d'Espagne, on comprend bien que si Staline est allé en Espagne, c'est pas du tout pour sauver la République, c'était avant tout pour exécuter son opposition de gauche, et que c'est ça qui est intéressant, et qu'en fait ils ont volé l'or de la République espagnole, et que finalement, la République espagnole n'intéressait pas plus que ça, quoi. Enfin, je suis très dur avec les stalinistes. Mais parce que je ne le suis pas et parce que j'ai vu les massacres qu'ils ont pu connaître, quoi. Et puis l'autre chose qui me fascine dans la guerre d'Espagne, c'est les brigades internationales. C'est-à-dire le départ de toutes ces personnes qui venaient de pays très lointains pour certains, et qui sont beaucoup d'artistes, et beaucoup, beaucoup d'artistes qui se sont engagés, Hemingway, Orwell, enfin beaucoup. Et donc tout ça rejoignait un peu mes préoccupations, mes centres d'intérêt, c'est-à-dire les arts et l'engagement.
L'engagement, c'est important.
On était en décembre 1936, il y a de cela, au moment où j'écris, moins de 7 mois. Et cependant, il me semble déjà qu'il s'agit d'une époque très lointaine. J'étais venu en Espagne dans l'intention d'écrire quelques articles pour les journaux, mais à peine arrivé, je m'engageais dans les milices, car à cette date et dans cette atmosphère, il paraissait inconcevable de pouvoir agir autrement. Les anarchistes avaient toujours effectivement la haute main sur la Catalogne, et la révolution battait encore son plein. C'était bien la première fois dans ma vie que je me trouvais dans une ville où la classe ouvrière avait pris le dessus. À peu près tous les immeubles de quelque importance avaient été saisis par les ouvriers et sur tous flottaient des drapeaux rouges ou les drapeaux rouges et noirs des anarchistes. Tout magasin, tout café portait une inscription vous informant de sa collectivisation, jusqu'aux caisses des cireurs de bottes qui avaient été collectivisées et peintes en rouge et noir. Les garçons de café, les vendeurs vous regardaient bien en face et se comportaient avec vous en égaux. Les tournures de phrases serviles ou même simplement cérémonieuses avaient pour le moment disparu. Tout le monde se tutoyait, on s'appelait camarade et l'on disait « salud » au lieu de « buenos dias ». Tout cela était étrange et émouvant. Une bonne part m'en demeurait incompréhensible et même, en un sens, ne me plaisait pas, mais il y avait là un état de choses qui m'apparut sur le champ comme valant la peine qu'on se battît pour lui. George Orwell.
Hommage à la Catalogne, George Orwell, une parution en 1938. Là, c'était une lecture de Jean Negroni avec ce roman que vous avez évoqué d'Anne Frank, Les Calendes grecques. C'est le prix du premier roman et c'est là où vous parlez de ces brigades internationales.
Mais, par exemple, Le Catalogne libre est un livre majeur. L'histoire d'Orwell est assez simple. C'est que il part avec un groupe trotskiste alors qu'il n'est pas trotskiste, mais il veut s'engager. Il va en effet en Catalogne où il est blessé et il revient en Espagne. Pardon, il revient à Madrid ou à Barcelone. Et là, il assiste à une guerre civile, en fait, entre les fascistes et les staliniens. Entre les anarchistes et les staliniens. Et ça, c'est quelque chose qui le révolte. Et c'est vrai que la guerre civile dans la guerre civile, Ken Loach a fait un film autour de ça, la guerre civile dans la guerre civile, c'est quelque chose d'absolument effrayant. Et Orwell s'en va absolument écœuré par ce qu'il a vu, quoi. Et cette dimension-là, de cette guerre entre les anarchistes et les staliniens, c'est quand je disais tout à l'heure, quand on a vu ça et compris ça, on a compris le siècle, en tout cas on a compris le stalinisme, on a compris l'URSS et on a compris ce que c'est devenu.
Oui, exactement, c'est pas la simple opposition entre le fascisme et les gens favorables à la démocratie. Cette guerre d'Espagne, elle est beaucoup plus complexe et on y croise évidemment de nouveau Picasso parce que il vous faut vos artistes. Alors il y a les écrivains bien sûr, il y a les peintres avec Picasso et Guernica. Ce regard porté sur l'Espagne, il est pertinent et c'est extrêmement juste ce que vous dites Dan Frank hein, sur cette période tellement complexe qu'on simplifie, mais en la simplifiant, on ne la comprend plus du tout.
Ben oui. Mais je pense en même temps que c'est dommage. C'est dommage parce que l'histoire est faite justement de soubresauts très, très étonnants. Et il faut pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, pour comprendre le rapport à l'autorité, et cette espèce d'illusion qu'a été le stalinisme et en fait l'aveuglement de nombre d'intellectuels, à commencer par Aragon, que j'estime énormément comme écrivain, mais pas du tout comme homme politique, que j'estimais quand il était surréaliste, mais qui est devenu un stalinien pas possible. C'est vrai que on a besoin de l'histoire pour comprendre. En fait, on a besoin de l'histoire pour comprendre. Et même dans la société aujourd'hui et dans tous les mouvements monstrueux qui se développent, que ce soit aux États-Unis, en Israël, en Ukraine, je pense que la compréhension de l'histoire nous aide à comprendre l'actualité.
Oui, puis cette mise en perspective de l'actualité avec le regard de l'histoire nous donne des frissons avec la réapparition de phénomènes que l'on pensait complètement éteints. Et on parle, vous évoquez le stalinisme, mais il y a tous ces fascismes qui sont là, présents, et on le voit, et c'est évoqué comme un sujet d'actualité, ce qui n'aurait pas été pensable il y a quelques années. Ce n'était pas un sujet d'actualité.
C'est-à-dire que là, en ce moment, beaucoup essaye de faire des rapports entre les années 30 et aujourd'hui. Je sais pas si c'est une des comparaisons qui sont fondées, mais la hausse du racisme, de l'antisémitisme, de l'illibéralisme, qui est une forme quand même très, très de droite, en tout cas, et qui se développe notamment aux États-Unis et qui devient une forme de pré-fascisme, sinon de fascisme, c'est effrayant. C'est comme ce qui se passe aux États-Unis, par exemple, avec la censure sur tout, je parle même pas de l'économie, mais sur les facultés, sur les journaux, la manière même dont la tech c'est mis à genoux devant Trump et la façon dont il tient le monde, dont il parle d'envahir le Groenland ou Panama, c'est du fascisme. C'est une forme moderne du fascisme.
Et que peuvent les arts là-dedans? Parce que quand vous avez réfléchi à ce temps de la bohème, ce premier 20e siècle, c'est pour toute une période la montée des fascismes et les artistes sont là. Mais l'artiste a juste une voix, mais quelle est sa place dans cette histoire ?
Dans les années 30, il y a eu des tas de congrès de antifascistes contre le nazisme, et qui étaient d'ailleurs soutenus par les Russes, hein. Faut quand même pas. Mais là aujourd'hui, je veux dire, vous pouvez, on peut pas, on peut ne soutenir ni les Russes, ni les Américains, qu'est-ce que font les artistes ? Ben, ils font des tribunes, il faut trouver une forme d'expression qu'on n'a pas. On est dans autre chose, on est dans les réseaux sociaux, on est la diffusion de l'information ne fonctionne plus du tout de la même manière.
Ouais, cette diffusion...
Donc il faut trouver des modes d'expression. On les a pas.
Mais vous, dans vos modes d'expression, Anne Frank, vous avez plusieurs formes. Et c'est ça qui est intéressant avec des collaborations. On a cité Jean Vautrin. Il y a ce travail autour des séries. Il y a ce travail autour du roman. Il y a tant et tant de formes possibles, oui, à adopter pour diffuser. Pas tant des idées, hein, mais simplement des récits. Mais ces récits, on le sait bien, sont porteurs d'idées.
Moi, je considère que mon premier engagement, c'est ma plume. C'est-à-dire que, et c'est même pas les articles que je peux signer ou les pétitions, c'est mes livres. Je veux dire, quand dans Le Temps des Bohèmes, je raconte la montée de la guerre, la montée des intolérances, ou bien quand dans le roman des artistes, je parle des révolutions de 1830, 48 et 70, je m'engage. C'est une forme d'engagement. Donc c'est mon premier engagement, c'est ma plume. Voilà. Mais ça suffit pas. Alors pendant longtemps, j'ai fait des choses sur le terrain. Je suis allé beaucoup sur le terrain. Moi, je me suis beaucoup occupé des sans-papiers à une époque, les migrants aujourd'hui. Et quand j'écrivais Bohème et que je racontais l'histoire de ces migrants qui s'appellent Picasso espagnol, Apollinaire polonais, italo-polonais, ou bien Soutine qui vient des pays de l'Est ou les autres, ou Modigliani d'Italie, je parlais des migrants de l'époque. Voilà. Et je décrivais un moment extraordinaire de générosité à l'époque qui n'existe plus.
Ce moment de générosité et ce moment extraordinaire, c'est celui des aventuriers de l'art moderne.
Paris, 1900, capitale du monde. Peintres, sculpteurs, écrivains, poètes, musiciens venus d'ailleurs et de partout se retrouvent ici, à Paris. Loin de cette effervescence, au-delà des grands boulevards, un petit village s'éveille aux lumières du siècle qui commence. Montmartre. Un jeune homme monte vers la butte. Le jeune homme s'appelle Max Jacob. Il est poète et dessinateur. Un matin de juin 1901, alors qu'il passe rue Lafitte, le poète s'arrête devant la vitrine d'une galerie de peinture. Dans la vitrine, vous exposez un peintre, le petit tableau à droite. Picasso, répond Vollard. Invendable. Une heure plus tard, Max sonne à la porte d'un appartement du boulevard de Clichy. Pablo Picasso est là. Max le congratule. Ils se serrent les mains, s'exclament, s'applaudissent, sans comprendre un seul propos de ce qu'ils se disent. Alors Beethoven sert de langue commune. On joue la 7e symphonie à la guitare, on chante l'hymne à la joie à gorge déployée.
Les aventuriers de l'art moderne d'Anne Frank, c'est votre série diffusée sur Arte, série d'animation. On peut donner le nom de ces animatrices, Amélie Haro, Pauline Gaillard et Valérie Loiseleux, parce que alors c'est très beau esthétiquement et puis ça raconte des
choses.
Oui,
c'est une équipe merveilleuse. C'était très intéressant d'ailleurs mes débats avec. Je vous raconte parce que dans le livre Minuit, c'est-à-dire le dernier livre de cette trilogie qui raconte la guerre, que je voulais appeler Résistance. Mais en fait, en me plongeant dedans, je me suis dit, bah non, c'est plutôt Collaboration serait le meilleur titre. Mais donc, j'ai trouvé Minuit. Je suis très dur dans ce livre avec Sartre et Beauvoir. Très, très dur. Parce que, bon, ils ont bien vécu. Et quand vous lisez les mémoires de Simone de Beauvoir et qu'elle raconte au moment du débarquement, quand il y a une fête chez Michel Léris, il y a Picasso, Camus et tout ça, et elle regarde des feux d'artifice merveilleux qui sont en fait les tirs de la DCA contre le débarquement, et qu'elle dit ce jour-là j'ai compris le sens du mot fête, et que vous regardez cette vie quotidienne pénible et cette fausse résistance qui a été la leur. D'ailleurs, Sartre n'a jamais défendu la résistance, mais surtout, ils ne sont jamais engagés avant, ni sur l'Espagne, ni sur rien. Donc je suis assez dur avec Simone de Beauvoir, Et puis, quand je travaillais avec ces jeunes femmes qui sont merveilleuses, qui ont un talent infini, elles voulaient absolument pas que Simone de Beauvoir soit présentée comme je la présentais dans mes livres, quoi. Et donc, j'ai fini par céder parce que c'était un vrai... Elles avaient 30 ans, une trentaine. Et donc, j'ai cédé. Simone de Beauvoir est présentée dans la série d'une façon assez neutre. Et je me suis fait engueuler par Pierre Nora, l'historien Pierre Nora, que je connais, qui est un ami, qui m'a dit « Tu es juste dans ton livre, mais tu n'es pas du tout dans la série. » Et c'est intéressant, le regard de ces générations. Bon, enfin, en tout cas, c'était une expérience merveilleuse que cette série, Les Aventuriers de l'Art Moderne.
Et puis, il y a toute cette réflexion sur ce qu'est le passé. On l'entend bien, d'Anne Franck, hein, depuis que nous échangeons, on voit que vous êtes dedans. Là, vous êtes complètement dans cette époque. Et en plus, dans votre démarche, vous nous permettez d'y accéder. Je reprends cette phrase qu'on voit apparaître sur la couverture, sur le bandeau de votre roman « L'arrestation ». On ne sait jamais ce que le passé nous réserve. Je trouve ça déjà très très beau. Hein. Mais c'est quoi ce rapport au passé? Est-ce que ce passé, il est un peu complexe? L'histoire, c'est une écriture, c'est une discipline scientifique avec des méthodes. Vous n'êtes pas historien, vous l'avez dit. On ne sait jamais ce que le passé nous réserve.
Bon, moi d'abord... Je préfère passer, raconter le passé des autres que le mien, qui n'a pas, à mon sens, pas d'intérêt. Mais on est constitué de son passé, on est constitué de sa mémoire. On est la mémoire se transmet même d'une manière tout à fait inconsciente. On est les enfants de nos parents, de nos grands-parents, de nos générations antérieures, de la même manière que nos enfants resteront nos enfants. Encore que la modernité des générations fait que, au fond, c'est à nous d'apprendre de nos enfants à un moment. C'est-à-dire, on leur donne peut-être un fragment de mémoire, mais ils se créent la leur, et nous, ils nous remettent dans le temps présent. Et le rapport entre les générations est une chose extrêmement intéressante pour cette raison-là. Par exemple, il y a des combats que nous, on a menés, qui ne sont plus les leurs, mais les leurs sont formidables. Les leurs sont extraordinairement intéressants. Par exemple, sur l'écologie. L'écologie qui est un combat, c'est pas le combat de ma génération, je le comprends très bien, mais ce combat-là, le combat sur la reconnaissance des sexes, de l'égalité des sexes, le combat sur MeToo, etc., c'est des choses qui sont formidables et qui mènent, et moi je les regarde avec une grande admiration. C'est pas que je comprends pas toujours, mais je me dis c'est leur combat, il faut les appuyer, les comprendre, les soutenir si on peut. Et ils constituent ils fabriquent leur propre mémoire, qui vient et de la nôtre et de celle qu'ils sont en train donc de fabriquer à travers ces bagarres-là.
Votre mémoire familiale, à vous, c'est quoi dans cet héritage-là? Vous avez des choses à apprendre ici? Vous avez cité, on est héritier de nos pères, de nos mères, de nos grands-parents. Il y a quelque chose?
Moi, j'avais des grands-parents... Du côté maternel, mes grands-parents viennent de Russie et de Pologne. Et moi, c'est la guerre, hein, la guerre. Donc, de ce côté-là, ils ont vécu, ils se sont cachés. Ils se sont cachés à Paris, puis à Nice. Et puis, ils ont fini la guerre dans un clapier à lapin, dans le fond d'un jardin d'un commissaire de police. Qui se disait, ces gens-là témoigneront pour moi à la fin de la guerre. C'était au moment où les Italiens sont partis, remplacés par les Allemands, où c'était terrible. Parce que juif, bien sûr, pardon, parce que juif. Donc ça, c'est... Et ma mère, qu'on a réussi à la faire passer en Suisse par une filière improbable. Bon, ça, c'est du côté misérable. Et du côté paternel, c'était des résistants. Mon grand-père était un grand résistant, il faisait sauter des trains. Et j'ai fait une série d'ailleurs qui s'appelle Résistance sur TF1 il y a longtemps, enfin quelques années, qui raconte les jeunes, la résistance des jeunes. Et j'avais appelé, j'ai beaucoup de papiers, de documents de la guerre de mon grand-père, des plans d'attaque, de trains, j'ai beaucoup de choses. Et donc je me suis renseigné, j'ai appelé ces différents organismes qui m'ont dit... Il y avait aussi votre père, quoi. Et mon père, en effet... mais mon père parlait pas. Cette génération ne parlait pas, en fait. Mon père a été à la manifestation du 11 novembre en 40 à Paris. En me disant, non, c'était rien du tout, c'était un monôme. Alors que j'ai vu des gens qui y étaient, et ça n'était pas un monôme, c'était... Les Allemands ont tiré, enfin, c'était un vrai engagement. Donc cette génération-là a tué, comme de bon. Mais moi, je suis l'enfant de ça. Je suis l'enfant de ces deux... juifs de part et d'autre, mais d'un côté cachés parce que terrorisés, parce que comment se battre quand on parle la langue, mais on est ouvrier fourreur évidemment, et de l'autre c'est une petite bourgeoisie très très résistante. Voilà, moi je suis le croisement de ces deux cultures en fait.
Avec ce regard porté sur les générations qui viennent et qui sont déjà là, hein, parce que le temps passe quand même. Il y a tout à l'heure, Anne Frank, à propos d'Alexandre Dumas, vous avez dit « Oh, il vieillit, il est moins virulent ». Bon, vous vieillissez, mais on vieillit tout ça.
Bah, oui, oui,
mais,
oui.
Mais vous restez virulent, dites donc.
Ouais, j'essaye. Oui, la seule chose, c'est que je vais moins sur le terrain. D'abord parce que je suis allé beaucoup sur le terrain et ce qui m'intéresse toujours, c'est de faire des choses pratiques. C'est-à-dire, j'ai fait de l'alphabétisation, j'ai aidé des mômes à faire des pièces de théâtre qui ont d'ailleurs été diffusées sur France Inter. Enfin, j'ai fait des choses comme ça. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'en fait, souvent, ce qui intéressait les gens, c'était mon nom. J'ai un petit nom, hein, tout petit, mais quand même, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, voilà. Et je fais moins de choses. Je fais moins de choses parce qu'encore une fois, place aux jeunes et eux, ils font beaucoup. Je signe moins de pétitions parce que je veux pas. Je trouve qu'à un moment donné, de voir les mêmes signatures, ça nuit à des causes. Mais j'écris et puis quand vous me donnez la chance de m'exprimer, je m'exprime, quoi.
Ben voilà, et c'est pour notre plus grand plaisir. Et puis, c'est pas tout ça, mais autant la première trilogie sur la première moitié du XXe siècle est achevée, hein, le 1900-1945, ça, on l'a, c'est le temps des bohèmes, mais le roman des artistes, il y a le premier, romantisme au pluriel, mais vous avez dit qu'il y en avait quatre, et cette construction-là de révolution en révolution, il faut l'écrire, et c'est gigantesque, comme on l'entend bien.
Ouais, mais c'est formidable à faire parce que vous embrassez une totalité, vous embrassez la vie de personnage, vous embrassez le développement social, l'accès à la modernité, la naissance de la République. C'est formidable. Alors c'est vrai que les axes majeurs, c'est les révolutions, hein, les trois, en tout cas sauf le dernier tome, mais les trois révolutions parce qu'elles sont fondatrices, elles sont et que quand vous suivez l'évolution, par exemple, d'un type comme Dumas et que vous la comparez avec celle d'un type comme Victor Hugo, c'est génial parce que au fond, tout le monde suit l'évolution de Dumas. C'est-à-dire, on s'engage très jeune. Lui, encore une fois, en 1830, il est sur les barricades. En 1848, il est un peu plus mesuré, mais il écrit quand même. Hein, il écrit quand même. Et Balzac, lui, est un fieffé conservateur, réactionnaire. Et il développe son truc très bien. Et puis, il y a les femmes. George Sand est quelqu'un de... Pareil, George Sand, elle s'engage, elle est extraordinaire, George Sand. Elle obtient, enfin, c'est une vie incroyable. On ne connaît d'elle que ses pantalons, mais non, c'est pas vrai. C'est une femme libre, très libre. Et puis, il y en a d'autres. Il y a Marie Dagoult, qui, à un moment donné, c'est une femme de la bourgeoisie aristocratique. Elle épouse un banquier, elle est très riche, et un jour, elle a des enfants, et un jour, elle tombe amoureuse de Franz Liszt. Et elle bazarde tout. Elle quitte tout. Pour vivre son amour, la réaction de la société est terrible. Et c'est une femme qui a écrit un des meilleurs livres, à mon sens, sur la Révolution de 1848. Voilà. Et donc voilà, c'est des personnages merveilleux.
Vous avez parlé de Liszt, on aurait pu rajouter Chopin et toute la musique et la toile de fond aussi, parce que ils s'entendent vos livres. Anne Frank, merci vivement d'être venu dans le cours de l'histoire, le roman des artistes. Il y a cette première étape, ce premier tome, ce sont les romantismes. Merci vivement à vous.
Merci à vous. Merci beaucoup.
Oh, quelle vie, alors.
C'est la vie de bohème.
Non, on remet ça, hein, c'est trop joli.
Allons-y.
Allez, chef.
Un, deux. C'est la vie de bohème, la vie sans façon. La vie de garçon, la vie de patapatachon. C'est la vie que l'on aime quand on a 20 ans. Mais que nous menons plus longtemps.
Bourville, Georges Guettari, toujours plaisir avec ici pour préparer cette émission Jeanne Delecroix, Jeanne Copper, Raphaël Laloum, Chloé Rouillon, Maël Vincent Randonnier et Mayouen Guizou. Le cours de l'histoire, écoutez à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.